Europe 1. Ondelatte raconte. Christophe Ondelatte.
Je vous raconte l'affaire Farwell. Au début des années 80, un agent des services secrets soviétiques, Vladimir Vetrov, alias Farwell, décide de livrer aux Français des milliers de documents secrets du KGB. Un épisode incroyable de la guerre froide. Et ce qui rend cette histoire unique, ce sont les ressorts de Farwell. Il ne trahit pas son pays pour des raisons politiques, il le fait pour des raisons intimes. Une histoire que je tire de l'excellent documentaire de Michel Fine qui sera là tout à l'heure pour France 5, Farwell, l'espion qui aimait la France, une production de Tony Comiti. La réalisation est signée Céline Lebras.
Europe 1, Christophe Ondelatte.
Je vous emmène dans les années 80 au cœur de ce qu'on a appelé la guerre froide. Froide parce qu'elle ne s'est pas jouée avec des fusils, des bombes ou des chars. Elle s'est jouée avec des espions. KGB côté soviétique, CIA côté américain. Et l'un des enjeux de cette guerre était technologique. Les Américains avaient beaucoup d'avance et les Soviétiques beaucoup de retard. Et donc l'une des premières missions des agents du KGB était de piller les entreprises américaines. On ne l'a pas su à l'époque, mais c'était une guerre très déséquilibrée. La CIA américaine déployait un peu moins de 20 000 espions dans le monde. Les soviétiques du KGB étaient 700 000, 25 fois plus. Et à ce petit jeu, l'oncle Sam a bien failli se faire plumer. Et si ça ne s'est pas fait, peut-être bien que la France y est pour quelque chose. Matin de novembre 1980, à Paris, le commissaire Raymond Nart de la DST, c'est-à-dire du contre-espionnage français, est dans son bureau. Et comme tous les jours, il ouvre son courrier. Et il s'aperçoit que par deux canaux différents, un agent du KGB soviétique a tenté d'entrer en contact avec la DST. Il s'appelle Vladimir Vetrov et il propose de livrer des informations sensibles à la France. C'est énorme! Pour un espion français, c'est mieux que Noël. Parce que ce Vetrov, le commissaire sait très bien qui il est. Au KGB, il travaille pour la direction T, comme technologie. C'est un service d'espionnage soviétique qui collecte tous les secrets technologiques volés dans le monde entier. C'est Noël, je vous dis. Pour prouver sa bonne foi, Vetrov envoie un premier lot de documents dans une chemise sur laquelle il est écrit « Sekretno », secret. À peine arrivé, le commissaire Nart fonce chez le patron.
Entrez !
Monsieur le directeur, vous avez sur le bureau des documents qui proviennent directement du KGB. Vous plaisantez, Raymond ? Je ne me le permettrai pas, monsieur le directeur.
C'est considérable. La source?
Si vous le permettez, je la garderai pour moi, monsieur le directeur.
Vous avez raison. Moins il y a de monde au courant, mieux c'est. Eh bien, nous n'avons qu'à lui donner un nom de code à votre informateur. Un nom de code en anglais, tiens, pour brouiller les pistes. Appelons-le Farwell. Ça veut dire adieu en anglais. Ça vous va? Donc vous exploitez ces documents, bien sûr.
La chemise atterrit sur le bureau de l'adjoint du commissaire Nart, Jackie Demain. Elle contient une pile de feuilles de papier écrites en cyrillique.
Allô? Oui, Demain à l'appareil. Vous pouvez m'envoyer un interprète en langue russe, s'il vous plaît? Oui, c'est urgent. Dites-lui qu'il est possible qu'on y passe la nuit. Hein. Merci.
L'officier interprète arrive. Il installe une lampe de chevet, c'est pas de la haute technologie. Et il commence à épingler sur l'abat-jour les feuilles de papier en russe qu'il a tirées de la chemise.
Je fais ça pour y voir mieux. C'est plus lisible comme ça, vous comprenez? Alors, nanana. Bon, au premier coup d'œil, c'est je dirais, une liste de courses. C'est la liste des cibles des espions du KGB.
Tous les secrets qu'ils doivent piller. C'est classé par pays. France. Donc il y a la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, le Canada, et puis, évidemment, sans surprise, surtout les États-Unis. Alors je vais tout vous traduire, mais en gros, ça cible l'aviation de combat, les ordinateurs militaires, Atomnaya, ça c'est les sous-marins nucléaires, et puis les machines qui servent à les fabriquer, etc.
Toutes choses que les soviets n'auront pas besoin d'inventer s'ils arrivent à les voler. Si ce type, ce Vetrov, ce Farwell, est capable de faire passer la liste de ce qui a déjà été volé, c'est de l'or en barre. C'est du jamais vu. C'est tellement énorme qu'il faut en parler tout de suite au président de la République. Et donc à François Mitterrand, qui vient d'être élu. Yves Chalet, le patron de la DST, appelle le nouveau ministre de l'Intérieur, Gaston Defer.
Monsieur le ministre, Chalet de la DST à l'appareil. Dites-moi, il faudrait que je voie le président rapidement.
Venez ce soir, hein, il vous verra après la Garden Party.
Le président Mitterrand reçoit Chalet dans son bureau de l'Élysée. Et Chalet lui remet le dossier qu'il lui a préparé. Mitterrand le lit.
Bien. Eh bien, vous continuez, bien entendu. Et vous n'en parlez à personne, hein. Vous me rendez compte directement.
Il faut en parler aux Américains, monsieur le président.
Oui, bien entendu. Je vais voir Reagan à Ottawa. Je lui en parlerai personnellement.
Ronald Reagan, lui aussi, vient d'arriver au pouvoir aux États-Unis. Et je vous le dis, en matière de diplomatie, c'est une quiche. Il n'y connaît rien. Il s'en remet à ses conseillers. En revanche, il est anti-soviétique. Pourquoi il n'en sait rien? C'est viscéral. Et ce socialiste-là, Mitterrand, allié avec les communistes, avec lequel il a rendez-vous à Ottawa, eh bien, ça n'est pas sa tasse non plus. Mitterrand pose le dossier Farwell sur la table.
Monsieur le Président, j'ai quelque chose d'important à vous dire. Nous avons un atout à Moscou. Il nous envoie régulièrement des informations de première main. Certaines de ces informations, monsieur le Président, concernent les États-Unis d'Amérique. Quelqu'un de haut placé au KGB nous aide, monsieur le Président.
D'après son conseiller, Ronald Reagan n'a pas vraiment saisi toutes les implications de cette histoire. Il y avait du Trump dans Reagan. Mais ça lui a plu que ce Mitterrand soit aussi amical. Il s'était fait une fausse idée de lui. Et maintenant, la partie, à mon avis, la plus intéressante de cette histoire. Les motivations de ce Vladimir Vetrov. Pourquoi s'apprête-t-il à trahir son pays? C'est un officier du KGB. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Vous allez voir, c'est une belle leçon sur le fonctionnement de l'être humain. Vladimir Hippolytovitch Vetrov a une formation d'ingénieur. Il est recruté comme espion par le KGB au début des années 60, à sa sortie de l'école d'officiers de renseignement. Et pour son premier poste à l'étranger, on l'envoie en France, à Paris, sous la couverture d'un employé du commerce extérieur. Et donc il débarque à Paris avec femme et enfant. Et d'après vous, est-ce qu'il a aimé? Bien sûr qu'il a aimé. Il a adoré. L'appartement dans le 16e arrondissement, les sorties, les restaurants, Paris quoi. Et donc quand il est nommé au Canada en 1970, eh bien il est malheureux. Et au Canada ça se passe mal, il se met à picoler, il a des accidents de voiture. Et surtout, il se fait approcher par les services secrets canadiens. Il ne leur a pas dit oui, hein, mais c'était déjà trop. Retour à Moscou, au placard. Sa carrière est fichue. Il se retrouve dans une sous-division d'analyse, la fameuse direction T. Il demande une promotion, refusée. Il a le blues. Il plonge dans la dépression. Ça n'est plus le même homme. C'est ça, le petit moteur de Farwell. Se venger. Et offrir tout ça à un pays qu'il aime par-dessus tout. La France. C'est pas la politique le moteur de cette histoire. C'est un homme. Juste un homme. À poil. Et cet homme, maintenant, Farwell, eh bien, il faut s'organiser pour récupérer les documents qu'il peut transmettre, sans se faire repérer par le KGB. Et là, il faut que je vous explique. La DST, normalement, c'est un service de contre-espionnage, qui travaille en France, et qui n'a pas d'agent à l'étranger, comme le SDEC, l'ancêtre de la DGSE. Mais c'est une opération secrète en ligne directe avec le président de la République. Et donc le commissaire Nart doit se débrouiller pour trouver quelqu'un. Il connaît quelqu'un sur place à Moscou, l'attaché militaire adjoint Patrick Ferrand. Il a un passeport diplomatique, si ça tourne vinaigre, on pourra l'exfiltrer. Ce Patrick Ferrand, c'est l'homme clé de l'histoire. Il n'a parlé qu'une fois, dans le documentaire « Farwell, l'espion qui aimait la France ». C'est le chef d'état-major des armées qui lui a confié cette mission.
On va vous demander une mission. Il faudra prendre contact avec un gars du KGB.
Vous n'avez pas eu peur?
Peur de quoi?
De vous faire prendre?
Non, pourquoi?
Qu'est-ce que vous risquiez? C'était la prison, le goulag, la peine de mort?
Non, parce qu'avec mon passeport diplomatique, c'est limité. C'était l'autobus.
L'autobus?
Qui m'écrasait.
Vous auriez pu vous faire écraser par un autobus.
Je pense, oui.
Le commissaire Nart de la DST lui explique la suite. Bon, ce qu'on vous demande, Ferrand, c'est d'être le plus naturel possible. Comme si vous alliez voir un copain. Et vous devez prendre conscience qu'en livrant ces documents, lui prend un risque considérable. Donc il faut l'aimer, quoi. Hein? Vous devenez ami avec lui. Ok? Patrick Ferrand dit que ça n'a pas été difficile, ça. L'autre est plutôt sympa, il est chaleureux, il est aimable, il est rigolard. Les premiers rendez-vous avec Vetrov ont lieu après son travail, dans un parc près du musée Borodino. Sa femme travaille là, il vient la chercher tous les jours. Et donc lui et Ferrand se voient sur un banc, juste avant qu'elle ne sorte, comme de vieux copains. Et Farwell lui confie à chaque fois un dossier, constitué de documents originaux, en vérité, que Ferrand doit ramener à l'ambassade pour les photocopier et lui rendre le lendemain. Et plus tard, il se voit dans la voiture de Vetrov, une Lada. Vetrov est tout simplement heureux de parler français. Il voudrait bien parler de Balzac, tiens. Mais Patrick Ferrand n'est pas pointu sur le sujet, dommage. Est-ce qu'on le paie pour ça? Non, si, quelques roubles par-ci par-là et quelques bouteilles de gin et de scotch, mais rien de plus. Il ne fait pas ça pour l'argent ni pour la politique, mais pour se venger de l'humiliation qu'il a subie. Et il fait ça pour la France. Parce qu'il l'aime. C'est tout. Le rythme des livraisons s'accélère. Farwell fait passer de plus en plus de dossiers. 3000 pages. En moins d'un an. Patrick Ferrand n'arrive plus à suivre. Et comme les rendez-vous se multiplient, ça devient très dangereux. Et ce sont les Américains qui trouvent la solution. Un appareil photo tout petit, quelques centimètres carrés, genre Minox, un appareil qui tient dans la main et qui permet de photographier les documents sans sortir les originaux. Et Ferrand, pour récupérer les pellicules, les microfilms, décide de mettre à contribution sa propre femme. Elle va au marché, au rayon des légumes. Vetrov est là, qui palpe des courgettes. Il lui fait passer un petit paquet et une salade par-dessus, et voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans ces documents soviétiques? Eh bien, d'abord, les noms des 400 agents du KGB qui opèrent aux États-Unis sous couverture. C'est incroyable. et le nom de leurs sources, de leurs agents doubles. C'est très précieux tout ça. Et puis dans ces documents, il y a aussi des choses incroyables. Les plans d'avions, les plans de sous-marins nucléaires, les plans de centrales atomiques volées aux Occidentaux. Les Américains et les Français, au passage, se rendent compte que le KGB est très efficace, beaucoup plus que ce qu'ils n'imaginaient. Alors comment réagir à ça ? Évidemment, pas question pour les Américains d'expulser les espions de Moscou. Il ne faut pas griller Farwell. Et là, à la Maison-Blanche, un scientifique qui s'appelle Gus Weiss a une idée de génie. Moi, je me dis, et si au lieu de les empêcher de récupérer nos documents, on les aidait, hein ? Laissez-moi terminer. On leur livre des plans, mais on les fausse. On change les codes des machines, par exemple. Un centimètre, un millimètre, un millier de millimètres, peu importe, un kilo. Ben, du coup, ça marchera pas. Le président Reagan est d'accord. Et une cellule secrète au Pentagone, composée d'une demi-douzaine d'ingénieurs qui se mettent à fabriquer de faux plans avec de fausses côtes. Des missiles, par exemple. Ou des machines-outils qui servent à les fabriquer. S'ils appliquent les plans, ça ne marchera pas. À l'autre bout, bien sûr, Vladimir Vetrov, alias Farwell, n'est pas au courant. Mais sa carrière d'agent double va tourner court. Comme elle a commencé, en vérité. Pour des raisons personnelles, intimes. Le 26 janvier 1982, Patrick Ferrand a rendez-vous avec Vetrov sur la place Rouge, au centre de Moscou. Quand il arrive près de lui, il voit tout de suite que l'autre est bourré comme un coin. Il pue l'alcool.
C'est foutu, Patrick. Foutu.
Il ne lui dit pas pourquoi. Ferrand sort une bouteille de gin de sa poche.
Allez, Volodia, bois. Allez, bois, ça va te faire oublier.
Et le rendez-vous suivant, Vetrov n'est pas là. Et il n'est pas là non plus au rendez-vous de rattrapage. Et sa femme fait savoir que c'est fini. Il ne veut plus, ou il ne peut plus, transmettre de documents. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est fait repérer ? Il a des états d'âme ? Eh ben pas du tout. Les petits moteurs de Vetrov sont décidément intimes. Il a une maîtresse, Ludmila, qui travaille avec lui à la direction T. D'après un journaliste russe qui a mené l'enquête, ça barde entre eux. Vetrov ne veut pas quitter sa femme. Est-ce qu'elle a deviné qu'il a trahi le KGB ? C'est possible. Toujours est-il qu'un soir après le travail, Vetrov propose à Ludmila de la ramener chez elle. Sur le trajet, il achète du champagne, et il lui offre à boire. Et là, d'un coup, bim ! Il l'assomme avec la bouteille. Et il attrape dans la boîte à gants une pique en métal, et il se met à la frapper. Bam ! Bam ! Bam ! Et là, un homme toque à la vitre.
« Qu'est-ce qui se passe ici ?»
Vetrov ouvre la portière. Il a sa pique à la main, et il poignarde l'homme. Et il le tue. Ludmila réussit à s'enfuir. Elle ne dit pas aux policiers qu'elle a des soupçons sur lui. Mais Vetrov est naturellement arrêté et jeté en prison. Et comme il appartient au KGB, il est interrogé par un de ses collègues. Qui comme ça, au pif, sent que quelque chose ne tourne pas rond, qu'il y a un problème. Pour le meurtre, Vetrov est condamné à 20 ans de prison. Il est envoyé dans un goulag de Sibérie. Mais le KGB ne le lâche pas. Il le surveille. 24. En avril 1983, Paris décide d'expulser de France 47 soviétiques, dont certains ont été balancés par Vetrov. Quant à 8000 kilomètres de là, au fond de son goulag, Vetrov l'apprend. Il dit à voix haute.
« Oh les idiots! Ils m'ont grillé.
Un agent du goulag a tout entendu. Et il transmet immédiatement l'information à son supérieur. Et voilà sans doute comment Vetrov s'est fait pincer. À moins qu'il se soit fait balancer par une taupe américaine, on ne saura jamais. Le 1er janvier 1984, pour la nouvelle année, Vetrov envoie une dernière carte de vœux à sa femme Svetlana et à son fils Vladik. Je vous souhaite une bonne santé, du succès, du travail, et que l'année 1984 vous apporte à tous un tout petit peu de bonheur. L'année d'après, Svetlana est convoquée au parquet militaire à Moscou. On la fait asseoir dans une petite pièce étroite et on lui annonce « En vertu du jugement, madame, votre mari a été fusillé. » Et on lui remet un acte de décès daté du 23 janvier 1985. Et à la rubrique « Cause de la mort », un trait. Svetlana rentre chez elle et elle s'effondre en larmes. Il ne fait aucun doute que cet épisode de la guerre froide a joué un rôle déterminant dans la suite des événements. Car il a définitivement fragilisé le KGB, qui ne s'en remettra jamais. 6 ans plus tard, en août 1991, la foule vient déboulonner devant la Loubianka, le siège du KGB, la statue de son fondateur, Dzerzhinsky. Et 6 mois après, l'Union soviétique n'est plus. Et sans doute que Farwell n'y est pas pour rien. Dans cette histoire, et dans ce monde où on veut croire que les choses changent par la politique, par l'idéologie, par les idées, c'est un homme seul, pour des raisons intimes, qui a fait bouger les lignes. Juste parce qu'on l'avait blessé. Juste parce qu'on l'avait humilié. Juste parce qu'il aimait la France. Alors, est-il pensable de décorer un jour Vladimir Hippolytovitch Vetrov de la Légion d'honneur à titre posthume? Dans sa datcha près de Moscou, sa femme Svetlana en rêve encore. Mais Poutine, sans doute, n'apprécierait pas. Alors, voilà donc pour cette histoire que j'ai directement tirée, Michel Fine, de votre documentaire chez Tony Comiti Productions pour France 5, Farwell, l'espion qui aimait la France. La Légion d'honneur à titre posthume pour Farwell, ça serait une idée formidable. Hein.
Ça serait une idée formidable et Richard Allen, qui était le conseiller sécurité de Reagan, trouve que la France n'a pas suffisamment remercié Farwell et lui trouve que ça serait une bonne chose.
Svetlana, sa femme que vous avez vue, qui a 82 ans aujourd'hui, elle en rêve, elle.
Oui, Svetlana, elle a un petit goût d'amertume derrière la bouche, hein, parce qu'elle trouve qu'on n'a pas remercié son mari. Elle, elle a l'impression que la France l'a laissé tomber, quoi.
Elle touche pas une petite pension, par exemple.
Elle touche pas une petite pension de la France. Ceci dit, Svetlana vit bien. Elle a toujours bien vécu. C'est un couple qui a toujours eu beaucoup d'argent. On ne sait pas trop comment, d'ailleurs, parce qu'ils étaient assez riches en France. Hein. Ils vivaient bien.
Elle n'est pas paria à Moscou.
Non, elle n'est pas paria. Et d'ailleurs, avec un petit peu de perfidie, Raymond Nart me dit, quand il a su que j'allais voir Svetlana, Raymond Nart, donc le commissaire à l'époque de la DST, me dit « Demandez à Svetlana combien de temps elle est restée dans l'appartement du KGB. Pourquoi elle est restée aussi longtemps dans l'appartement du KGB ?» Ce que voulait dire Raymond Nart, c'est que le rôle qu'a vraiment joué Svetlana dans cette histoire
n'est pas clair.
Est un peu ambigu. Voilà, c'est...
On n'exclut pas totalement l'idée qu'elle ait pu le donner, c'est ça?
Alors, il y a eu une multiplicité de facteurs pour lesquels Farwell est tombé. Il est tombé parce que la France a expulsé 47 espions soviétiques, d'une part. Il est aussi tombé parce que, quand il est arrivé en prison, comme il faisait partie du KGB, on a mis dans sa cellule un autre espion du KGB qui lui-même avait été arrêté pour une histoire
et qui avait besoin
d'accident.
De se racheter.
Ouais. Oui, et il a fait parler Vetrov parce que bon, ces gens-là, ils sont comme ça. Et il a trouvé que c'était un drôle de type, ce Vetrov. Et Vetrov lui parlait beaucoup des cadeaux qu'il recevait en France. Et il s'est dit, mais s'il recevait des cadeaux en France, pourquoi il avait autant d'argent? Est-ce qu'il jouait pas double jeu? Donc, il en a parlé au juge du KGB qui était chargé d'instruire le dossier Farwell. Et donc, ils ont monté un espèce de piège. Ils ont permis à Svetlana d'aller voir Farwell en se disant peut-être qu'il va lui faire passer des messages. Et effectivement, Farwell est tombé direct dans le piège et il a fait passer à Svetlana une lettre à destination de son contact à la DST en France, dans laquelle il disait « Il faut donner de l'argent à Svetlana, je suis en prison, il faut nous aider, etc. » Alors, ce que dit la DST en français, c'est que Svetlana a donné la lettre au KGB. J'ai posé la question à Svetlana. Svetlana ne m'a jamais répondu, mais elle m'a montré une lettre qu'elle a gardée. Donc, si elle l'a gardée, c'est qu'elle ne l'a pas fait passer. Donc, voilà. Ceci dit, son rôle reste quand même un petit peu ambigu.
En tout cas, on voit dans votre documentaire qu'elle rêve de la France, toujours.
Enfin, elle adore la France.
Elle
parle
bien
un petit peu français. Ouais. Ils ont adoré la France. Ils vivaient dans les quartiers chics. Ils vivaient dans le 16e. Ils avaient un très bel appartement. Ils avaient plein d'amis français. Ils allaient dans les meilleurs restaurants. Elle allait dans les meilleures boutiques. Et elle a gardé, et elle m'a montré, elle a gardé les très beaux vêtements des grands couturiers qu'elle s'était fait payer à l'époque et qu'elle a toujours, aujourd'hui, chez elle.
Votre scoop est d'avoir interviewé pour la première fois Patrick Ferrand, qui n'avait jamais parlé, et qui est donc cet attaché militaire à Moscou, qui se retrouve à titre amateur, finalement, en première ligne dans cette affaire d'espionnage. Ça a été facile de le faire parler?
Non, il ne voulait pas. Il ne voulait pas. En fait, c'est Raymond Nart qui m'a mis sur la piste de Patrick Ferrand. Quand je suis allée le voir, il m'a parlé de Farwell, dont on avait beaucoup parlé, sur lequel on
il
avait
a fait un livre, lui,
raconté...
de toute façon.
Oui, il a fait un livre. Il y a eu un excellent reportage d'Hervé Brusigny et Dominique Thiers sur Farwell. Farwell avait été raconté. Mais Raymond Nart, il y avait quelque chose qu'il voulait raconter, c'est les implications géopolitiques de l'affaire Farwell. Mmh. Et comment, selon lui et selon les Américains, les informations données par Farwell ont accéléré le cours de l'histoire et accéléré la chute de l'Union soviétique. Mmh. C'est ça qu'il voulait raconter et uniquement ça. Donc il m'a dit, vous devriez regarder le livre édité au CNRS par Patrick Ferrand sur l'affaire Farwell, sans rien me dire de plus, sans me donner de numéro, etc. J'ai appelé les éditions du CNRS, j'ai eu le numéro de Patrick Ferrand, et Patrick Ferrand m'a un petit peu piloté dans cette enquête en me disant, vous savez, vous devriez regarder, vous devriez lire, vous devriez... En fait, il faisait l'enquête à travers moi. Et au bout d'un moment, je lui dis, Monsieur Ferrand, je veux vous interviewer, vous êtes formidable. Il me dit, non, jamais, je n'ai jamais parlé, je ne parlerai jamais. Et j'ai fini par lui dire, écoutez, je ne peux pas raconter cette histoire sans vous, c'est impossible. Il a fini par me dire d'accord,
mais
à visage caché, parce que Patrick Ferrand, ce qui n'était pas le cas de ce qu'il m'a dit avant, a été embauché ensuite par la DGSE.
Et il a fait d'autres missions.
Et il a fait d'autres missions, et il ne veut pas qu'on le reconnaisse, parce qu'il y a des missions où on n'a jamais su qu'il était embauché par la France.
Il est furieusement sympathique. Enfin, il a l'air bonasse comme ça quand on l'entend.
Il a un humour dévastateur.
Ouais.
Il raconte les choses, enfin c'est le petit bout de la lorgnette. Hein. Moi je m'en rappelle quand il nous raconte comment sa femme, Madeleine... Madeleine, j'ai rencontré Madeleine quand j'ai fait l'interview de Patrick Ferrand.
C'est elle qui va au marché récupérer
c'est elle qui
les
va
microfilms.
Au marché récupérer les microfilms.
Sous la salade.
Sous les salades. Et je lui dis, mais c'est pour ça que ça a marché, parce que c'était au vu aussi de tout le monde sous la salade. Il me dit, oh, si ça avait été des courgettes, ça aurait été pareil. Il a énormément d'humour, Patrick Ferrand. Il vous raconte ça avec une espèce de bonhomie. Il a été au cœur de l'histoire. Il a pris des risques inconsidérés.
Et sa femme aussi.
Et sa femme aussi.
Elle n'a pas voulu parler.
Alors c'est lui qui n'a pas voulu qu'elle parle. Moi, je lui dis, je veux vous interviewer absolument, Madeleine. Elle me dit, d'accord. Et lui, il dit, non.
Comme un militaire.
Comme un militaire. Et donc, elle est partie, Madeleine, et j'ai vu... voilà, c'est mon seul regret.
C'est le prochain coup.
Ouais.
Il est convaincu, lui, que c'est son amateurisme, son manque de savoir, au fond, dans le contact avec les agents doubles,
tout le monde.
Qui a été la clé de sa réussite.
Oui,
c'est terrible, ça, parce que c'est la constatation qu'il ne faut pas se former, alors.
Bah, disons que tous les agents secrets en poste à Moscou, que ce soit la CIA, les agents des services anglais, étaient suivis par le KGB. C'est-à-dire quand ils prenaient une voiture, il y avait une voiture du KGB qui les suivait.
Oui.
Ils étaient répertoriés, ils étaient archi-suivis. Et il y avait un accord entre l'Union soviétique et la France, et au terme de cet accord, la France ne mettait pas d'espions français à Moscou. Voilà. Et le porte-parole du KGB que j'ai vu, le porte-parole du KGB que j'ai vu et qui était absolument furieux de cette histoire, il me dit mais farewell, c'est pas donna, c'est un traître, un salaud fini. Et il dit ce responsable, ce haut gradé du KGB, il dit mais la France nous a menti. Ils avaient dit qu'ils ne mettraient pas d'espions.
Zut alors.
Voilà. Alors que eux avaient passé des dizaines et des dizaines d'années à piller tous les secrets de l'Ouest. La France nous a menti, ils avaient un espion et ils ne nous l'ont pas dit. Voilà.
Est-ce que Patrick Ferrand est touché par la fin de Vetrov ?
Énormément. Patrick Ferrand, il a gardé beaucoup d'amitié à l'égard de Vetrov. Il m'a même dit un truc extraordinaire. Il m'a dit, vous savez, si aujourd'hui, un jour, il frappait à la porte et si je voyais débouler, ben je ne serais pas étonné. À la limite, il se dit que peut-être il est même pas mort. A priori, pour tout le monde, Vetrov est mort.
Mais il est touché ou il est révolté parce que...
Non, il n'est pas révolté parce que c'est un soldat, c'est un militaire, donc il a obéi. Et puis, la vérité, c'est que Farewell, il était un peu bredzin, quoi. C'était un type qui...
C'était un alcoolique, en vérité.
C'était un exalté, il buvait...
Trop.
Alcoolique, il était soviétique, donc...
Oui. Ça rime.
Non, mais c'était un type qui était capable d'emportement, de faire des, il pouvait faire beaucoup de conneries, quoi. Et c'est peut-être ça qui a fait qu'il a pris des risques aussi inconsidérés. Mais il était vraiment attaché à lui, ils ont passé énormément d'heures ensemble. À quoi il servait, Patrick Ferrand ? Il servait à récupérer les secrets, mais il servait surtout à gérer Farewell. Et Farewell, ils passaient des heures et des heures dans la voiture ensemble, une petite Lada, en plein Moscou, au nez du KGB, sans que le KGB le sache. Et en fait, la seule chose que voulait Farewell, c'était de discuter en français avec Ferrand, parce qu'il adorait le français, parler d'anecdotes, raconter ses histoires de fesses entre sa maîtresse et sa femme. Et en fait, c'était son confesseur, c'était son psy, c'était... c'était...
Le plan ? À la fin, c'était d'exfiltrer Vetrov vers la France.
Alors, il n'y avait pas de plan pour exfiltrer Vetrov vers la France, parce que Vetrov a refusé d'être exfiltré. Les services français lui ont proposé de lui donner un passeport français et de le faire sortir, et il a dit non, je ne quitterai pas...
Il y avait donc un côté un peu suicidaire dans la démarche. C'était son dernier geste.
C'était son dernier geste parce qu'il n'avait pas de vie après, parce que ce qu'il aurait aimé, Vetrov, c'était de repartir en poste à l'étranger, en particulier en France. Il s'est rendu compte qu'il n'avait pas d'avenir, donc c'était terminé. Il n'a pas voulu quitter l'Union soviétique parce qu'il n'a pas voulu quitter Svetlana ni son fils.
Je veux qu'on parle des motivations intimes de Vetrov, parce que moi je trouve que c'est le moment le plus fort, c'est très instructif au fond sur ce qui fait l'histoire de l'humanité. On croit que c'est la politique, on croit que c'est le combat des idées, et en fait là on a un homme qui a un ressort très intime, il a été humilié, il veut juste se venger, et il a gardé une espèce de relation romantique avec la France qui a été le premier poste de sa carrière d'espion. C'est fascinant ça, moi je trouve.
Il a beaucoup d'amertume parce que il a été, quand il a été en poste au Canada, ça s'est mal passé. Les Canadiens ont essayé de le recruter. Il y a eu une histoire d'argent, une sombre histoire d'argent. Les services secrets canadiens ont essayé de le recruter. Et comme les services secrets canadiens étaient infiltrés par le KGB, comme la plupart des services secrets du monde, la CIA, le SDEC, etc., ça s'est su et le KGB a rapatrié Vetrov. Et donc, ils l'ont mis au placard. Et Vetrov s'est senti vraiment humilié. Et en plus, il commençait à détester ces gens du KGB, ces caciques qui pratiquaient le népotisme. Quand on voulait avoir de l'avancement au KGB, il valait mieux être le neveu de tel ou tel personnage bien placé plutôt que d'être un bon agent secret. Il supportait plus ce système et il avait aussi peur, il faut le dire, qu'une guerre éclate entre l'Est et l'Ouest. Et il s'est dit qu'en balançant le KGB, en cassant le KGB, il voulait casser le dos du KGB, c'était ça qu'il voulait faire. Il s'est dit qu'il arrêterait la guerre.
Mais il y a un autre passage que j'aime beaucoup dans votre documentaire et que j'ai tenté de faire revivre dans le récit, c'est le personnage de Richard Allen, qui est donc le conseiller sécurité de Ronald Reagan. Et il est terrible avec Reagan. Alors moi j'ai dit, Reagan est une quiche en diplomatie, il dit pas quiche lui.
Non.
Mais enfin, il laisse entendre clairement qu'il ne comprend rien à rien.
Alors, il le laisse entendre tout en ayant une admiration profonde pour Ronald Reagan.
Parce vraiment. Qu'il a fait ce qu'il lui a dit, en gros.
Il a fait ce qu'il lui a dit. Il raconte un épisode qui est juste énorme. C'est la première conférence de presse de Ronald Reagan, où Ronald Reagan arrive devant tous les journalistes.
Il vient d'être élu. Hein.
Il vient d'être élu, c'est sa première conférence de presse, et on lui dit « Alors, qu'est-ce que vous pensez des soviétiques ?» Et il dit « Bah moi, je pense qu'ils mentent, qu'ils trichent et qu'ils volent. » Et là, l'Assemblée fait « Oh !» Richard Allen fait « Oups !» Alexander Haig se met la main sur le visage, en fait, qui est le secrétaire d'État. C'est la consternation. Reagan continue sa conférence de presse, termine, s'en va. Et après la conférence de presse, dans le couloir, il se retourne vers Richard Allen et lui dit « Dis donc, Richard, est-ce que c'est vrai que les Soviétiques, ils mentent, ils trichent et ils volent ?» Absolument, monsieur le Président, absolument.
Ah,
c'est bien ce que je pensais. Et il se retourne, il s'en va.
C'est énorme. J'ai dit tout à l'heure, il y a du Trump dans Reagan déjà.
Ouais.
Mais en vérité, il n'a pas de savoir diplomatique. Il improvise.
Oui, alors Richard Allen, il improvise, ouais, mais il a aussi une intelligence des situations. Et il a eu l'intelligence de profiter de cette situation et de dire, on va créer une petite équipe, puisqu'il il vole nos secrets, eh bien, vous savez quoi ? On va les leur donner, mais on va les modifier et on va leur faire perdre la tête. Et finalement, ils ont assez bien réussi.
Côté français, vous avez donc les deux personnages essentiels de cette histoire. Nart et Debin, qui étaient les deux seuls au fond dans la confidence avec le président de la République. Ils ont envie de parler, d'y revenir, ou ça reste malgré tout des militaires, des gens qui ont l'habitude de se taire ?
Non, parce que, alors ils sont pas militaires, ils sont policiers,
ouais.
C'est pas la DGSE, c'est la DST. Ils sont très fiers de cette histoire, parce que c'est quand même l'histoire d'espionnage... La plus belle histoire d'espionnage de la France, même si le KGB, les officiers du KGB aujourd'hui vous disent, enfin vous nous parlez de Farewell, mais la France, vous n'avez que Farewell. Nous, des Farewell, on en a eu des centaines, c'est vrai. La France n'en a qu'un, mais la France est très fière de ça. Après, encore une fois, ce qu'ils voulaient, c'était d'expliquer les conséquences géopolitiques de Farewell et en quoi l'action des services secrets peut changer le cours de l'histoire.
Les petits détails, genre le fait qu'ils accrochent les feuilles de papier autour de l'abat-jour d'une lampe de chevet,
oui.
Il a fallu les leur arracher, c'est pas ça qui les intéresse, c'est pas la petite histoire.
Ah non, ça ils adorent raconter la grande histoire par la petite histoire.
Oui,
ils racontent aussi le soir, parce qu'ils faisaient les traductions des documents Farewell le soir pour que personne ne le sache. Personne au sein de la DST ne le savait.
Ouais.
Donc ils restaient très tard dans la nuit, et ils se rappellent toujours cette histoire où un soir, vers 22h ou je ne sais quelle heure, ils croient un des directeurs de la DST qui les regarde en disant « Mais je n'ai rien vu
!» En tout cas, c'était une histoire passionnante. Merci de nous avoir prêté votre enquête pour la raconter aujourd'hui. Je rappelle le titre de ce documentaire produit par Tony Comiti, « Farewell, l'espion qui aimait la France ». Vous le trouverez sur Internet, car désormais, aux grandes dames des auteurs, plus rien ne se perd et tout se transforme.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.